Bonjour et bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa fidèle tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore, musicale, pertinente ou un peu moins les petites images qui bougent pertinentes toujours dans 24 notes secondes. Ce jour, eh bien, nous n'allons pas consacrer notre émission à un acteur, à un réalisateur ou à un compositeur, mais à une ville, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises dans 24 notes secondes. Et ce jour, eh bien, c'est la bonne ville d'Athènes qui va être le théâtre en fait, de nos exploits musicaux, plus exactement des films qui se passent dans la bonne ville d'Athènes. Vous l'aurez compris, évidemment le Parthénon, évidemment l'Acropole, une ville fort polluée, il faut bien le reconnaître, mais surtout, si je puis me permettre, de ma modeste expérience, à Athènes, aller au musée grec. Vous pouvez y rester une journée, vous ne serez lassé de rien et vous verrez ce que c'est qu'une civilisation à son apogée. Voilà, c'est dit. On va commencer notre égrener notre filmographie. Alors, par un film que j'avoue, je n'ai pas vu, un film tourné en 1962 par un réalisateur lui aussi complètement inconnu de moi, Joseph Antoni, mais comme le film est italien, je soupçonne que le nom du réalisateur ne soit qu'un pseudonyme, une coproduction sans doute un peu improbable, comme on en faisait beaucoup dans les années 60, parce que la distribution elle-même est elle aussi très hétéroclite. On y retrouve l'anglais David Niven dans le rôle principal, on retrouve Léa Massari, italienne, on retrouve Ben Gazzara et Martin Balsam, qui sont des acteurs américains pur sucre, le tout pour un film qui se passe en 1944, au moment où les troupes allemandes commencent à quitter la Grèce après l'avoir occupée d'une façon absolument horrible. L'occupation allemande en Grèce est un grand traumatisme qui n'a d'égal que le traumatisme qui suivit, puisque quand les Allemands partirent, eh bien une sorte de guerre civile se produisit en Grèce qui opposa différentes factions, communistes, royalistes, etc. Je ne vais pas entrer dans un détail que je connais mal, mais les malheurs de la Grèce ne se sont pas terminés avec la Seconde Guerre mondiale et le film, lui, eh bien, évoque, je suppose de manière romancée, un épisode se passant dans la bonne ville d'Athènes à ce moment-là, incertain, où l'occupant s'en va, mais où ceux qui vont le suivre ne sont pas encore connus. La musique de ce film, elle est signée de Piero Piccioni. Le titre, je crois vous l'avoir déjà dit, mais je n'en suis pas certain, ça s'appelle « L'arsenal de la peur » en français. Ça s'appelle « La città prigioniera ». Bah, c'est pas très bon, je vais pas le refaire. La Città Prigioniera en italien, et on en écoute un extrait de la bande originale dans 24 notes secondes. Thank you. L'inquiétante musique de Piero Piccioni pour un extrait de la bande originale, pardonnez-moi, de L'Arsenal de la peur, réalisé par Sic Joseph Anthony en 1962 et qui se passait à Athènes, comme notre émission de 24 notes secondes de ce jour. Et on va enchaîner sans transition aucune avec une fantaisie policière tournée en 1971 par Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo. Notre bébel national est regretté dans le rôle principal. Alors c'était déjà le cinquième film qu'Henri Verneuil tournait avec Jean-Paul Belmondo, une très grosse production, une sorte de comédie policière inspirée d'un roman de David Goudis, sans doute plus noir que son adaptation par Vae Katcha et Henri Verneuil. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo, il y avait Omar Sharif, qui était un peu son alter ego. Jean-Paul Belmondo jouait le méchant, entre guillemets, en tout cas celui qui n'était pas du côté de la loi, et Omar Sharif jouait un commissaire, en tout cas supposait-elle, du côté de la loi. À leur côté, quelques solides second rôles comme Robert Hossein, Renato Salvatori ou Diane Cannon. Le tout, ma foi, était à l'aune des films de Jean-Paul Belmondo. Il y avait beaucoup de cascades tournées par Bebel lui-même, notamment une course-poursuite dans les rues d'Athènes qui, je le suppose, presque plus de 50 ans plus tard, doit avoir une sorte de cachet documentaire bienvenu. J'avoue que je n'ai pas revu le film depuis bien longtemps. Tout cela ne portait pas à conséquence, mais était quand même bien troussé. C'est ce qu'on peut dire. Et la musique, eh bien, elle était signée d'Ennio Morricone, comme vous pouvez vous en douter. C'était la grande époque où les réalisateurs français, notamment Henri Verneuil, pouvaient encore s'offrir Ennio Morricone avant que son succès américain ne fasse exploser ses prétentions financières. Et il faut bien le reconnaître, et qu'il amène aussi à des collaborations remarquables ailleurs. Mais en tout cas, on va écouter un extrait de cette bande originale relativement connue, je pense, Le Casse, dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale du CAS, Henri Verneuil, 1961, Jean-Paul Belmondo et Ennio Morricone, bien sûr, à la musique, ma foi, un film d'action comme on les faisait dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, messieurs, mesdames. Ma foi, les films d'action, ils ont changé, mais il y en a quand même encore des biens. Et c'est le cas de celui que nous allons évoquer maintenant. Un film intitulé tout simplement Jason Bourne, tourné par Paul Greengrass en 2016. Alors c'était le quatrième ou le cinquième opus, on va le voir, selon les cas d'une saga commencée en 2002 avec La mémoire dans la peau, déjà réalisée par le dit Paul Greengrass, l'évocation des souvenirs absents d'un espion qui se réveille sans savoir plus qui il est, qui va passer plusieurs films à essayer de retrouver sa personnalité, pourquoi il a été retrouvé en pleine mer, si je me souviens bien, etc. etc. C'est Matt Damon qui incarne le rôle principal, Jason Bourne, donc de cette saga inspirée des romans de Robert Ludlum, si je me souviens bien. On aura La mort de la peau en 2004 et La vengeance dans la peau en 2007. Et puis ensuite, il y aura une sorte de sequel, mais qui ne sera ni avec Matt Damon, ni avec Paul Greengrass. Ça s'appelle Jason Bourne, l'héritage, sorti en 2012. Un film de Justin Lin avec Jeremy Renner, pardonnez-moi, dans le rôle principal. Et enfin, eh bien, les deux, Paul Greengrass et Matt Damon, se retrouveront. Il faut dire que Matt Damon avait exigé d'avoir uniquement Paul Greengrass comme réalisateur, sinon il refusait de tourner le film. Quand on est Matt Damon, je suppose qu'on peut imposer n'importe quoi, et même le nom du réalisateur. Il faut dire que Paul Greengrass, eh bien, c'est aussi le génie qu'il y a derrière Vol 93, probablement le seul film vraiment intéressant consacré à la tragédie du 11 septembre. Et qui est vraiment glaçant à tout point de vue. Bref, un homme qui sait tenir une caméra. Et il le prouve dans ce Jason Bourne sorti en 2016, qui se passe donc pour part à Athènes, et avec notamment des émeutes sur la fameuse place Syntagma. Émeutes qui, dans le contexte, retrouvaient des échos curieusement contemporains, puisque c'était juste quelques années après les crises financières qui avaient obligé la Grèce, sous la pression des financiers internationaux, et notamment européens, et notamment allemands, pour ne pas le dire, qui avaient obligé la Grèce à des saignées tragiques pour la population, mais parfois profitables pour les spéculateurs. Ma foi, je n'en dirai pas plus, on est là dans une émission de musique de film, donc on va écouter de la musique. La musique du film, elle est signée de David Buckley et John Powell. Jason Bourne, dans 24 notes, se compte. Thank you. L'efficace musique de David Buckley et John Powell pour Jazz on Bourne. Bon, il faut bien reconnaître que la musique, elle colle plus aux images qu'elle ne se laisse écouter séparément, mais une fois, elle est quand même bienvenue. Jazz on Bourne, donc un film de Paul Greengrass avec Matt Damon dans le rôle principal pour illustrer notre échappée escapade de ce jour à Athènes, la bonne ville d'Athènes, théâtre de nombreux films, alors notamment grecs, mais enfin, j'ai pas trouvé vraiment de... À part un que je vous garde en finale, je n'ai pas trouvé vraiment d'extrait de films grecs avec les musiques de films correspondantes. Donc, il faut se contenter, entre guillemets, d'apports français ou américains. C'est aussi le cas du thriller tourné par Hossein Amini en 2014, Two Faces of January, les deux côtés de janvier. Apparemment, ça n'a pas été traduit en français, même par les Québécois, c'est dire. Un film adapté d'un roman de Patricia Highsmith, la redoutable Patricia Highsmith, l'inventeur de Monsieur Ripley, un personnage bien connu qui a été plusieurs fois adapté au cinéma. Ma foi, il faut reconnaître que cette fois-ci, elle l'est de manière relativement classique. Alors, la distribution est prestigieuse et de bon genre, comme l'on dit, puisqu'on y retrouve Oscar Isaac, Kirsten Dunst et Viggo Mortensen qui viennent de divers horizons. Spider-Man, Le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Et La Guerre des Étoiles pour Oscar Isaac. Ma foi, le résultat est un petit peu appliqué, mais on y retrouve quand même l'esprit vénéneux, on va dire, de Patricia Highsmith. Et puis, une constitution de la Grèce des années 60, puisque le film se passe dans les années 60, avec notamment un certain nombre de scènes à Athènes. Sinon, à quoi bon l'inclure dans notre émission de 24 notes secondes ? La musique, elle est signée d'Alberto Iglesias, encore un apport étranger, et on en écoute un petit extrait, The Two Faces of January, dans 24 notes secondes. Thank you. La musique, elle aussi vénéneuse, d'Alberto Iglesias pour un extrait de la bande originale de The Two Faces of January, un film sorti en 2014 d'Hossein Amini, d'après Patricia Highsmith, et qui donc se passait dans l'Athènes des années 60. Et bien ça tombe bien, puisque le film sur lequel nous allons conclure cette émission, lui aussi, il se passe dans l'Athènes des années 60. Alors, s'il y a vraiment un film sur Athènes, et bien c'est Jamais le dimanche, c'est le titre du film, Never on Sundays, dans le titre anglais, parce qu'il y a aussi un titre en grec, que je me garderai bien de vous énoncer. Un film de Jules Dassin avec Mélina Mercouri dans le rôle principal. Pour vous résumer l'histoire, eh bien, c'est l'histoire d'une prostituée, interprétée par Mélina Mercouri, qui travaille tous les jours, sauf le dimanche, d'où le titre du film, et qui est abordée par un Américain, incarné par Jules Dassin lui-même, donc le réalisateur aussi acteur principal, bien nommé Homer. Ce n'est évidemment pas un hasard s'il s'appelle Homer et qui vient chercher en Grèce la vérité, les sources de notre civilisation, et y trouve en l'espèce Mélina Mercouri. Alors, contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas de relation amoureuse qui se noue entre eux, au risque de divulgâcher, mais ce n'est pas le sujet du film de toute façon. Par contre, il est absolument fasciné par une image de la Grèce qui ne correspond absolument pas à l'image mythologique, glorieuse qu'il incarne, mais Mélina Mercouri, dans ce film, elle incarne tout simplement la vie. Justement, peut-être pas la vérité, mais la vie, l'exubérance, l'humour, le don de son corps, si l'on veut. Il n'y a rien de graveleux, il n'y a rien de vulgaire, elle est absolument éblouissante. Il faut dire que ces deux-là entretenaient une relation personnelle aussi, puisque Jamais le dimanche, eh bien, c'est le troisième film dans la série des sept films, a priori, qu'ils vont interpréter ensemble. Ils s'étaient rencontrés en 1955. Avant Jamais le dimanche, il y avait eu Celui qui doit mourir et un autre, mais je ne vais pas tous vous les citer. Après, il y aura notamment ce chef-d'œuvre du film de cambriolage que constitue Top Capi, tourné en 1974, Une petite merveille. Et Jamais le dimanche, c'est aussi Une petite merveille. Alors, Jules Dassin n'est pas plus grec que vous et moi, par contre. Mélina Mercouri, c'est la Grèce incarnée. D'ailleurs, quelques années plus tard, bien des années plus tard, elle deviendra ministre de la culture de son pays. Et Dieu sait que s'il y avait une personne qualifiée pour l'être, eh bien, c'était bien elle, une personnalité absolument extraordinaire et qui est tout à fait éblouissante dans ce film, revu récemment pour tout vous dire, et qui garde tout son charme. Donc si jamais vous avez l'occasion, je sais, c'est en noir et blanc, je sais, ça parle essentiellement en grec, je sais, c'est vieux, mais bon, il y a aussi des choses bien dans ce qui est vieux. La musique, elle est signé de Manos Algidakis. J'espère vous avoir vendu le tout. On en écoute un extrait, mais Jamais le dimanche dans 24 notes secondes. Eh bien, tout le monde danse dans le studio. Allez-y, faites-en autant. Allez, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.